et vous écoutez France Culture. Le bon film est un accident, un croque en jambe au dogme, et ce sont quelques-uns des films qui méprisent les règles, de ces films hérétiques, de ces films maudits que nous prétendons défendre. Jean Cocteau, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui fêtera en effet ce soir les 25 ans de l'étrange festival. 25 ans d'images impardonnables, de visions incicatrisables et de traumatismes délicieux. Pour évoquer le grand sabbat annuel à Paris au Forum des images du cinéma Mauvais genre, nous serons en compagnie de son maître de ballet Frédéric Tan et d'un de ses danseurs étoiles, Gaspard Noé. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre, donc je le répète, qui souffle ce soir, ou qui attise les braises ce soir des 25 ans de l'étrange festival. Et la phrase que vous avez entendue en ouverture, signée Jean Cocteau, eh bien, a été écrite à l'occasion du festival du film maudit. C'était à Biarritz en 1949, et nous fêtons cette année également les 70 ans du film maudit. Donc entre 1949 et 2019, beaucoup de choses se sont faites, beaucoup de propos, beaucoup de projections, beaucoup de discussion autour du cinéma que nous aimons, l'occasion ce soir évidemment d'en parler, et d'en parler bien sûr avec Frédéric Tan. Comment va-t-il ?
Très bien, merci.
Il est heureux ?
Formidable.
Bon, parfait. Bah, heureux donc d'être avec vous ce soir pour évoquer ces 25 années.
C'est partagé.
Tout détaillé des 25 ans de programmation. En tout cas, on va évidemment s'attarder longuement sur celle de cette année 2019 et puis évoquer un peu le temps passé et non pas le temps perdu, le temps gagné. Donc, au fil de ces 25 années. Bonsoir, Gaspard Noé.
Bonsoir.
Heureux de vous avoir à Mauvais genre. Ça fait quand même pas mal d'années que vous auriez déjà dû venir.
Oui.
Mais on n'a jamais eu la bonne idée. On n'a jamais eu la...
On a essayé, c'est les calendriers qui
voilà, c'est ça. On a toujours été déplorables sur cette affaire-là. Et donc, bienvenue à vous, Gaspard Noé. Vous êtes bien sûr chez vous dans cette émission. On vous a souvent, d'ailleurs, évoqué. Vous êtes à la droite de Sixtine Audebert.
Bonsoir, François.
Bonsoir.
Elle va très bien.
Elle passe son temps à l'étrange festival depuis le mercredi. Donc, on va en parler avec elle. Et il y a Philippe Rouillet.
Bonsoir.
Philippe Rouillet, qu'a-t-il à nous dire?
Oh bah, que je me réjouis d'être là, qu'on profite de l'étrange festival, qu'il y a plein de choses en ce moment.
Donc voilà, on va détailler parce qu'effectivement, on va voir à quel point Mauvais genre est chez soi, Mauvais genre est à sa place comme spectateur de l'étrange festival. Mais avant ça, un autre festival, celui de Céline Duchesnay. Bonsoir Céline.
Bonsoir François.
Avec ouverture solennelle en ce soir de l'encyclopédie pratique des mauvais genres.
Et très là, précisément.
Préparez vos
mouchoirs, voilà. Je crois que c'est ça que vous aimeriez que je dise, avec Pierre-Alexis Deschamps.
Je transporte quelques-unes des récentes créations du projet que je mène, qui s'appelle Les plus beaux mouchoirs de Paris, qui est une édition de mouchoirs d'artistes, des mouchoirs d'artistes que j'invite et qui sont imprimés par le mode de la sérigraphie sur des mouchoirs en tissu, bien entendu. C'était en 2005 et il commençait à y avoir beaucoup, beaucoup de tatouages. Et je me disais, tiens, c'est rigolo, ces dessins que j'ai faits, principalement des filles qui regardent leur postérieur dans des vitres. D'après des images que j'avais trouvées dans des vieux magazines des années 30, 40, pour lire à de Paris Fripon. Et je m'étais décidé de les imprimer sur des chemises, et c'était très embêtant avec les boutons, les coutures, tout ça, les poches. Et j'avais à côté de moi un petit lot de mouchoirs, parce que j'étais très intéressé par tout ce qui était motif à carreaux, les torchons. Et sur les mouchoirs, c'était fort, fort simple, et ça a donné une première série... En 2005, qui s'appelait « Le mieux est l'ennemi du bien », les phrases de mon grand-père.
Pierre-Alexis Deschamps m'avait prévenu, il viendrait avec sa valise de colporteur. et clac, une fois la valise ouverte, il a sorti des dizaines de mouchoirs, variété dans les tailles, les motifs, les couleurs, et sur chaque mouchoir, un dessin sérigraphié. Initié en 2005 avec ses propres dessins, le projet Les plus beaux mouchoirs de Paris s'est très vite ouvert à d'autres artistes. Jean-Christophe Menu, Marie-Pierre Brunel, Anne van der Linden, les sœurs japonaises Amadaraka, Zélie Dauphémont, pour ne citer que quelques-uns des 70 artistes invités à ce jour. L'art du mouchoir est devenu une véritable passion pour Pierre-Alexis Deschamps. Il est d'ailleurs mouchoirologue, une profession rare dont il est, à ma connaissance, le seul représentant.
Plus on cherche, plus on trouve deux choses.
Il y a déjà l'ambiguïté de départ. C'est quand même un peu un objet qui est un objet de peu, de peine, qui est au départ issu du recyclage, bien entendu, qui n'a même pas de nom avant la Renaissance, où là, on dit se moucher, mais il n'y a pas de mot pour mouchoir, où là apparaît le mot et c'est carrément un produit de luxe avec des fines dentelles qui sont vraiment très très chères et qui sert plutôt à occuper les mains. Un réceptacle a beaucoup de matière, et de la morve aux larmes, et sans rentrer dans les détails, mais aussi un objet de séduction, un objet un peu paradoxal et qui a d'autres usages, transporter le tabac, les objets précieux... Éventuellement dormir des victimes au chloroforme, transporter les bijoux qu'on leur a volés, effacer les empreintes digitales, masquer sa voix au téléphone. Enfin, je me suis beaucoup aidé effectivement du cinéma des années 30, 40 aussi, où je guettais l'apparition du mouchoir, pour en faire un peu l'encyclopédie des usages. Donc c'était un peu dans ce biais-là que j'invitais les artistes à venir s'emparer du sujet et me proposer... des dessins.
Peut-être votre usage préféré, vous, du mouchoir parmi cette longue liste que vous venez de nous faire ?
La sérigraphie, j'adore les imprimer.
Et il adore aussi les repasser, ce qu'il m'a dit après l'interview. En tout cas, pour retrouver les plus beaux mouchoirs de Paris de Pierre-Alexis Deschamps, artiste plasticien et mouchoirologue, rendez-vous au Panier, galerie lilloise située rue Diéna. La toute dernière collection y est présentée, et ce jusqu'à la fin de l'année. Et on peut aussi découvrir ces mouchoirs à Art Factory à Paris du 13 septembre au 5 octobre. Et plus d'informations sur la page internet de Mauvais Genre.
Merci Céline pour cette apparition du mouchoirologue et de ses mouchoirs. Donc dans l'encyclopédie pratique des mauvais gens, Gaspard Noé, vous êtes un amateur de mouchoirs. Est-ce que c'est un objet qui attise chez vous
Non, j'ai des fois des sinusites, mais non. Bon, en général, c'est des mouchoirs en papier, mais j'adore la galerie là, qu'elle vient de citer, Art Factory.
Art Factory.
Ils ont des artistes extraordinaires. Chaque fois que je passe dans le quartier, je m'arrête.
Mais voilà,
ils ont des livres, ils ont des sérigraphies à vendre. C'est...
Et des mouchoirs. Donc vous pourrez aller voir maintenant les mouchoirs et vous moucher dans les mouchoirs de Pierre-Alexis Deschamps.
Quand c'est trop joli, on n'a pas envie de les salir.
C'est vrai. Mais ils sont lavables.
Frédéric Tan, vous êtes aussi un mouchoirologue ?
Un mouchoirologue, non. Mais grand amateur, par contre, d'Art Factory également, puisque tant qu'à faire, c'est vrai que c'est l'occasion pour ce 25e anniversaire, mine de rien, de retrouver une grande famille, sans démagogie aucune, dont fait partie évidemment Laurent et son Art Factory rue de Charonne à Paris, puisqu'on a fait ensemble plusieurs expositions en collaboration sur différents artistes, que ce soit Stéphane Blanquet, Anne van der Linden aurait pu y participer l'an dernier, mais ça ne s'est pas fait, Paquito Bolino, etc. Enfin, en effet, c'est une des plus belles galeries françaises dans le domaine justement graphique et un peu des arts différents et de l'art brut qu'on adore particulièrement, bien sûr. Tous ces arts-là ont leur place à l'étrange festival.
Autre fan d'Art Factory, Sixtine Audebert, oui, qu'est-ce qu'on peut y voir en ce moment ?
En ce moment, vous avez une exposition autour de Lovecraft, il me semble, et également, je ne me souviens plus du nom de l'artiste, mais une jeune femme qui fait des sortes de vitraux très très Hay, je suppose qu'elle est du groupe Hay d'ailleurs, et des vitraux inspirés Alice au Pays des Merveilles, etc., etc.
Eh ben après un passage ou une journée entière ou un étrange festival, un peu de second passage, une fin de journée chez Art Factory, et vous serez heureux amateurs de mauvais genre qui fête ce soir les 25 ans de l'étrange festival et qui reçoit son animateur, fondateur, directeur artistique et maître de ballet Frédéric Tan, alias Temption. Quelques précisions, Frédéric Tan, sur ce qu'on entend là?
C'est la surprise, je suppose qu'il y en aura d'autres dans l'émission, mais en effet, ça, c'est un autre pendant de mes activités, à savoir je suis musicien aussi, et en effet, c'est un extrait du nouvel album qui vient juste de sortir, qui est le troisième sous l'intitulé Tension, en effet, qui est un jeu de mots par rapport à mon propre nom et la tension qu'on peut y trouver sur certains aspects musicaux. Et merci beaucoup, je ne m'attendais pas du tout à cette surprise de profiter de l'émission pour jouer aussi sur l'aspect musical. Et en effet, l'album est trouvable un petit peu partout depuis un mois maintenant.
Voilà, et toutes les précisions sont à retrouver quant à cet album et quant au festival, bien sûr, sur le site de Mauvais Genre. Dynamo Tension, une production de Frédéric Tan, notre invité, mais ce soir c'est Frédéric Tan, donc l'Étrange Festival qui est à Mauvais Genre. Alors cette édition 2019, 25e du nom, rapidement, est-ce qu'on peut la cartographier, Frédéric?
À quel niveau?
Les catégories de spectacles, avec qui vous faites appel, quels sont les types de les cartes blanches les...
Alors dans le cadre de cette édition anniversaire, en fait ce qu'on s'est dit de façon amusante au moins pour les cartes blanches, puisque c'est la dernière question, c'est, d'abord il y a évidemment votre cher ami à tous, Jean-Pierre Dionnet, qui a sa carte blanche principale en 5 séances, puisque ça faisait un certain nombre d'années, on va peut-être en parler après, qu'il nous suivait, qu'on le suivait, qu'on voulait faire cette carte blanche, donc ce fut enfin abouti pour cette édition, mais surtout on s'est dit tant qu'à faire une 25e édition, offrons à plein d'autres artistes auprès de qui on cherchait à faire quelque chose un jour ou l'autre et qui nous sied bien dans ce qu'ils véhiculent artistiquement et dans leur travail ou même leur philosophie tout simplement, que ce soit des chorégraphes comme Philippe Découfflet ou des musiciens comme Arthur Hache.
Ou des écrivaines comme
Chloé Delhomme par exemple, ou Michael Moorcock, etc. Mmh. Qui sont évidemment des gens très proches de nos univers depuis très longtemps et depuis la création de la manifestation. Offrons-leur si c'est possible au moins une séance, s'ils l'acceptent et qu'ils ont le temps de le faire. Ça a été un beau cadeau puisque 25 artistes en l'occurrence ont accepté de le faire pour chacun des films, si ce n'est à redécouvrir ou moins à découvrir. Et c'est vrai que depuis que le festival a commencé il y a maintenant 3 jours, on est assez surpris de voir l'affluence de certains films qui pourraient pour nous paraître des incunables mais classiques et que en fait les gens ont envie de redécouvrir une fois de plus sur un écran de cinéma.
Par exemple, jeudi, j'ai pu découvrir, Chloé Delhomme nous a présenté Generation Proteus.
Absolument.
Demon Seed, d'après Dean Koontz, un film étonnant que j'avais jamais vu et que là, enfin, dans des conditions maximum, on a pu découvrir.
Ce qui est formidable et qui est le parfait exemple, justement, de ce que j'annonçais à l'instant, c'est qu'on découvre nous-mêmes qu'il y a un engouement pour certaines œuvres qui nous sembleraient plutôt classiques à la base, et ça fait plaisir de voir que ça corrobore, ça aboutit enfin sur ce quart de siècle, à ce qu'on a toujours essayé de faire avec l'Étrange Festival, au moins pour les films de patrimoine ou plus anciens que les nouveautés, à savoir faire redécouvrir des œuvres qui pourraient être des évidences et qui n'en sont pas tant que ça.
D'autant qu'il n'y a pas de DVD tellement accessible de Génération Proteus. Et donc, pour toute une génération, c'est un film mythique. Et on voit bien sur les réseaux sociaux, depuis la projection de jeudi, tous les gens qui disent « on a vu ce film, c'est génial, on en entendait parler, on peut enfin l'avoir vu ».
Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'en plus...
On peut le trouver en DVD anglais sous le nom de Demon Seed.
Oui, son titre original. Gaspard, tout le monde n'est pas aussi fort que vous.
Même en plus, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on m'en a parlé évidemment depuis jeudi soir, et il s'avère qu'il existait une édition DVD française, mais pas Blu-ray. Il y a un Blu-ray étranger, en Italie, en Espagne, parce qu'en fait c'est un Warner à la base.
Oui,
hein.
Bien sûr.
Donc le catalogue existait. Pour des raisons que je ne connais pas une fois de plus, il n'y a pas eu d'édition Blu-ray pour la France. Il existe dans d'autres pays européens, donc on peut l'acquérir assez facilement par le net ou autre. Et je crois avoir compris hier soir par un ami qu'il semblerait que l'éditeur ESC vient de reprendre un contrat pour la France, mais avec un DVD. Alors il peut ne pas hésiter à les confirmer ou infirmer sur le site de l'émission si j'ai dit une bêtise, mais il semblerait qu'ils ont repris un contrat sur une édition DVD du film. Donc on devrait le voir apparaître à nouveau rapidement sur le marché.
Après, il faut savoir que beaucoup des Blu-ray qui sortent en salle, qui sortent dans le commerce, ce sont des escroqueries, c'est juste le master DVD qui a été mis sur un support Blu-ray mais qui n'a pas la qualité d'un Blu-ray. Moi j'en ai vu, ils avaient même fait comme ça des irréversibles, une édition Blu-ray qui en réalité c'est juste le vieux master qui a été upgradé. C'est pas forcément parce que ça sent Blu-ray que c'est un Blu-ray. Hein.
En tout cas, il y a l'idée de voir sur grand écran à l'Étrange Festival et de voir en communauté. Il y a ça aussi parce que maintenant, aujourd'hui, les gens ont parfois des très beaux installations chez eux, effectivement avec des Blu-ray, mais c'est autre chose de voir un film et l'Étrange Festival, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, il y a une ambiance. Il y a une ambiance très particulière. Les gens ont leur abonnement, passent d'une salle à l'autre, entre ce dont ils ont entendu parler et la découverte pure. Il y a un côté, je crois que vous employez le mot dans votre introduction, de festin. Et c'est exactement ça, quoi. Mais c'est un festin, j'allais dire, à l'asiatique, où il y a des plats qui arrivent sans cesse et on va picorer.
Absolument, on ne vient pas bouffer, on vient se nourrir et déguster l'Étrange Festival. Et j'en veux pour preuve que historiquement, lorsqu'on crée la manifestation en 93, pas très loin des Grands Boulevards et du Grand Rex mythique, de son festival mythique pour ceux qui l'ont connu, le Festival du Film Fantastique, qui a dû s'arrêter à cause justement de problèmes d'ambiance où il y avait un tel bazar au niveau du coût des nettoyages de la salle du Grand Rex que ça devenait ingérable pour les producteurs du festival, qui ont décidé d'arrêter parce que c'était devenu non plus une manifestation où on regardait ou découvrait des films, mais on venait mettre le dawa, comme on dit aujourd'hui couramment. Et c'est une chose que justement a été très amusante de constater avec l'Étrange Festival, c'est que certains films pouvaient s'y retrouver, évidemment, de cohésion et de même obédience à la limite. Et pourtant, ça a tout de suite été une espèce de, je dirais pas messe, mais une espèce de collégialité qui faisait qu'on venait ensemble savourer et découvrir des œuvres. Et j'en veux pour preuve anecdotiquement que lorsqu'on est parti dès la quatrième année définitivement au Forum des Images, de jeunes gens venaient me demander des renseignements sur telles œuvres, tels films, et me disaient merci monsieur, ils repartaient, etc. Et mes collègues me disaient, certains de mes collègues, mais tu sais qui c'est? Je dis, mais non, c'était les gens qui au deuxième étage du Grand Rex balançaient les seaux de farine et compagnie dans la salle et foutaient le bazar, alors qu'ils avaient d'eux-mêmes compris, changer de casquette, qu'on n'était pas là pour renouer sur un bazar tel celui du Rex, mais une autre forme de visionnage et de découverte. Ce qui était toujours intéressant, parce qu'on n'a rien provoqué pour. Ça s'est fait automatiquement.
Il n'y a pas de balcon, elle est trop fessée. Sinon, on recommencerait.
Sixtine Audebert, alors vous, votre ressenti de l'Étrange Festival comme atmosphère, convivialité.
Un mix heureux, on pourrait dire, entre le côté très fétichiste et admirable des films projetés à la Cinémathèque et la séance du Midnight Movies, où tout le monde est vachement dans l'ambiance, rigole à haute voix, commente le film parfois. Donc un mix très réussi entre à la fois ce rapport à l'image sacrée et en même temps une ambiance de communauté, comme disait Philippe, une ambiance de camaraderie et de plaisir partagé.
Mais qui est venu donc de lui-même, automatiquement. On n'a pas policé la chose, on ne l'a pas exposé tel quel. Nous, on amène un festin, comme dit Philippe très justement. On le propose aux spectateurs de le savourer. Donc les choses se sont faites automatiquement.
Un jour, il y avait une programmation qui m'a halluciné. C'était, il avait réussi à récupérer la copie 35 3D de Sherpa Frankenstein. Il avait réussi à trouver des lunettes de l'époque pour projeter. Et je crois que c'est une des projections les plus hallucinantes que j'ai vues à l'Étrange Festival. Le film, depuis, il est introuvable en 3D, ni en Blu-ray, ni
rien. La Cinémathèque a dû y renoncer en mars dernier.
Et je sais pas comment il s'est arrangé pour
une copie à Munich. La seule copie est à Munich.
Ben nous, à l'époque, on l'avait eu par Maurice lui-même, qui avait fait intervenir un ami, justement, je crois, en Allemagne. Enfin, je sais plus exactement. Parce qu'il y aurait beaucoup d'anecdotes de ce type à raconter. On pourrait raconter aussi celle de Polyester de John Waters, où depuis la projection, on a fait refabriquer nous-mêmes par l'usine, la seule usine au monde concernant le carton en question.
C'est un film où il y avait des odeurs, voilà. Il fallait gratter des pastilles pendant tout le film pour sentir les pieds de quelqu'un, la pizza. Ou quand quelqu'un pétait, tu grattais.
C'est vrai que le fait de faire ressortir le film pour cette nuit qu'on avait fait autour de John Waters il y a quelques années, depuis j'ai une multitude de demandes de salles en France, en province et même à l'étranger pour savoir où on avait récupéré ces fameux cartons mythiques, alors qu'ils sont tout simplement à faire fabriquer, mais ça a un certain coût bien évidemment.
Il va falloir que tu projettes un jour de Tingler de William Castle
avec
des sièges qui vibrent.
Les sièges qui vibrent. Les sièges.
Alors, chaque fois qu'il y avait un truc qui faisait pas.
Les squelettes volants.
Alors peut-être que Philippe s'en rappelle parce que justement j'ai pas pu assister, n'étant pas parisien, à cette rétrospective il y a quelques années autour de Castle à la Cinémathèque. Ont-ils fait installer les sièges?
Alors j'étais pas à la Cinémathèque, mais à Sitges. Il y avait à Sitges quand le film est passé en 92. J'y étais, j'ai vu le film avec Stuart Gordon et il faisait vibrer les sièges.
Vraiment, d'accord.
Voilà, le côté participatif est quand même parfois souhaitable. Donc alors, Étrange Festival, on retrouve les grandes catégories que vous avez mises en place, Frédéric, depuis toutes ces années. Bon, il y a bien sûr la compétition internationale, vous nous donnerez les sur la semaine prochaine, donc à partir de dimanche, quels sont les moments à ne pas rater. Et puis il y a Mondo Vision, il y a les Pépites de l'étrange, il y a Retour de Flamme, donc il y a une volonté de promener le curseur sur depuis le film muet, depuis les raretés retrouvées, restaurées, jusqu'à l'actualité la plus immédiate.
Absolument.
De ce cinéma-là.
Merci beaucoup, grand honneur d'avoir cité Cocteau pour nous comparer depuis cette semaine sur le site de l'émission. J'en suis très flatté, puisque bien évidemment, autant le festival de Nocle-Zout était important pour nous historiquement, autant le festival du film de Biarritz est aussi un grand mythe. Et c'est vrai que cette phrase, cette célèbre phrase de Cocteau, pour en citer une autre de celle d'introduction de l'émission, à savoir il n'y a pas de bon mauvais film, il n'y a que des singularités, voilà. Des œuvres différentes, correspond parfaitement à un t-shirt que je pourrais arborer chaque année à l'étrange festival et qui résume ce que c'est que l'étrange festival. Donc c'est vrai que pour nous, le primitif et le cinéma depuis plus de 110 ans, jusqu'aux dernières nouveautés, on espère, et d'ailleurs on continue à être ébloui, est peut-être un grand mot, mais parce qu'on commence à vieillir et être un peu blasé, on va dire. Mais en tout cas, surpris et excité par certaines œuvres qui, et jeunes auteurs ou autrices qui arrivent encore aujourd'hui. Et c'est notre plaisir même du fameux festin dont parlait Philippe dans la symbolique. Il faut des épices différentes, des nouveaux mets, tenter des variations sur un plat plutôt connu. C'est ce qu'on essaye et qu'on s'évertue à faire depuis un quart de siècle.
Alors cette année, les jeunes pousses, la garde montante, chevaux légers, enfin tout ce qu'on
veut. Il y a beaucoup de choses. Moi, je sais que, alors c'est toujours délicat parce que vous venez me piéger avec la célèbre question à savoir quels sont les films à voir en priorité.
Pas rater,
oui. Bah oui, c'est toujours, je disais encore cette semaine à un de vos confrères, c'est quand même délicat. Irait-on demander à Thierry Frémaux quel est le meilleur film de la compétition de Cannes chaque année? C'est un petit peu diplomatiquement délicat pour les confrères en concurrence. Malgré cela, on peut un petit peu, entre guillemets, jouer le jeu. Et c'est vrai que moi, des films comme le premier long métrage d'un cinéaste autrichien plutôt documentariste d'habitude, à savoir Andreas Horvath, qui vient de faire, produit par Ulrich Seidel, aussi un amateur de l'émission, je suppose, un très très beau film qui s'appelle Lilian, qui était d'ailleurs cette année à Cannes, il me semble, je ne sais plus si c'était à l'Acide ou à la Quinzaine, et qui est passé quasi inaperçu, entre guillemets, parce que c'est encore, on en parlait pré-introduction de l'émission sur un autre sujet. C'est un film bouleversant parce qu'en fait, le cinéaste est parti d'un fait divers du début du siècle dernier qui a eu aux États-Unis d'une jeune femme russe qui, ne trouvant pas de travail, décide de repartir dans son pays à pied, donc traversant l'Amérique et en passant par le détroit de Bering. Alors déjà, sur le papier, c'est assez improbable comme tentative. Et partant de cette anecdote historique, il a reproduit aujourd'hui, de façon contemporaine, ce même schéma avec une jeune russe venant dans le milieu pornographique hollywoodien, constate que c'est pas pour elle, ne va rien faire d'autre, donc repartir vers la Russie, via le détroit de Bering, et on découvre une Amérique actuelle du vide, où il ne se passe pas grand-chose, le vrai cœur de l'Amérique, comme le disait si bien un autre cinéaste précédemment, et moi j'ai trouvé que dans le film, on y retrouve un petit côté justement Balade de Bruno et les premiers Herzog, qui n'auraient pas déplu, parce que en plus, c'est vrai qu'on peut trouver, dans un parallèle du film et d'histoire de cette jeune femme, le fameux schéma connu du livre de Werner Herzog lorsqu'il est venu à Paris, de Munich jusqu'à Paris à pied, pour essayer
de sauver
sur son lit la co-fondatrice de la Cinémathèque, si je puis dire. Et c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à cela en voyant le film. Oui, Lotte Eisner. Et j'ai tout de suite pensé à cela personnellement en voyant le film, et avec une fin qu'on ne va pas raconter, bien évidemment, mais d'une puissance philosophique assez phénoménale.
Donc je vous ai posé cette question parce que quand on a ce bréviaire du mauvais genre qui est le petit livre guide de l'étrange festival, tout est à voir. Il y a quand même également un art de la rédaction et de l'apéritif de pousse au crime et de l'excitation qui fait qu'on a envie de tout voir. Donc il est quand même par moments
si c'est
utile.
Le cas, si c'est le cas, tant mieux. En toute logique physique, je pense qu'aucune personne ne peut tout voir. Je crois que l'amusement a été fait sur certains sites, j'avais constaté, je crois, où certains fous furieux arrivent à voir quasiment je crois que c'est 58 ou 60 films, ce qui est déjà monstrueux en 12 jours. Je sais pas comment ils font d'ailleurs, parce que
5 par jour.
Bah oui, enfin quand même.
Si on s'organise bien pour passer, parce que Forum des Images, il y a les salles 100, 200, 300, 500. Donc si on arrive à gérer un peu le transit et la circulation,
je serais curieux de voir la rétine des personnes concernées en fin de festival. Mais bon, c'est vrai qu'on essaye. On essaye de donner vraiment un effet. Non, mais c'est bien. Je reviens sur cette symbolique d'entrée de jeu de Philippe sur le festin asiatique, parce qu'on pense au fameux film, évidemment précis, dont il fait référence. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir avoir une variété de choses à picorer comme ça et d'y aller. Notre cher danseur étoile, comme vous le disiez en introduction, est là aussi pour en parler, parce que non seulement, tant faire se peut, nous essayons depuis 25 ans d'être ensemble pour chaque édition, si son planning le permet, et souvent il s'est arrangé pour, mais en plus lui-même vient picorer et dévorer dans ce festin.
Alors picorons, si Gaspard Noé est avec nous ce soir, Philippe Rouillet, c'est pour une raison toute particulière, outre le fait qu'il appartient intrinsèquement, viscéralement à l'univers du Mauvais Genre et de l'Étrange Festival.
Pourquoi ? C'est la présentation en première française hier de la nouvelle version d'Irréversible. Hein. Alors la nouvelle version d'Irréversible, qui s'appelle l'inversion intégrale, formidable jeu de mots, qui s'appellera Straight Cut pour les territoires anglo-saxons, qui était présenté à Venise au festival à la Mostra la semaine dernière, et qui donc a la particularité de remettre le film dans l'ordre chronologique, puisque tout le monde se souvient Irréversible 2002, ce film qui était raconté en commençant par la fin et qui remontait vers le début, vers ce plan admirable de Monica Bellucci dans un parc avec son ventre, sa grossesse, la septième de Beethoven, et sachant tout ce qui s'était passé avant dans le film, qui se passera après, et qui donnait cette idée que le temps détruit tout. Là, ce n'est pas spoilé, même ceux qui n'auraient pas vu la version de 2002 commenceront avec cette séquence. Et donc, désormais, le film est dans l'ordre chronologique. Alors, Gaspard étant là ce soir, Gaspard Noé, j'ai envie de lui demander pourquoi, 17 ans après, vous avez voulu cette inversion.
C'est qu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit, à partir du moment où je montais le film, mais pourquoi tu ne le montes pas à l'endroit pour le voir ? Il y avait le producteur, il y avait Vincent Cassel, Et un jour, lorsque le film était sorti à l'étranger, j'avais vu que les Coréens, ils avaient fait, comme un bonus du DVD, une édition à l'endroit, mais c'était super mal monté, il n'y avait pas de raccord de musique, etc. Et du coup, j'ai commencé à la regarder, j'ai dit, ça me fait mal aux yeux, j'ai arrêté. Et là, il y a quelques mois, il y a Studio Canal qui m'a contacté parce qu'il voulait ressortir le film en DCP, donc dans les salles, et en Blu-ray, remasterisé. Je me suis occupé de la remasterisation d'Irréversible pour cette ressortie. Et au moment où la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait comme bonus pour le Blu-ray, j'ai dit, maintenant que j'ai le matériel dans ma salle de montage et tout, c'est l'occasion ou jamais d'essayer de le mettre à l'endroit. Et le résultat, qui n'a pas pris beaucoup de temps à monter parce que c'est comme 13 blocs à inverser et ajuster, était tellement fort que je l'ai montré à plusieurs personnes et tout le monde me dit, putain, il y en a qui me disent, on préfère même cette version-là qui est beaucoup plus simple, mais beaucoup plus mélancolique et cruelle que l'autre. Et au fur et à mesure que je le montrais à des amis, ils me disaient, ouais, non, il faut vraiment le sortir en salle. Et du coup, avec l'accord de Studio Canal, on s'est dit, voilà, on va pas le sortir comme un bonus du Blu-ray, mais on va faire une double sortie. Aujourd'hui, c'est comme s'il y avait un disque, il y avait une face A et une face B, sauf que la face A, elle a toujours été très conceptuelle, expérimentale, et que du coup, sur la phase B, maintenant, t'as la chose qui est limpide, on entend les paroles, et on entend les situations, et on entend les personnages. Je sais que j'ai déjà vu des réactions. Il y a des gens qui sortent beaucoup plus troublés par cette version-ci, qui est plus à échelle humaine. Et l'autre, c'était comme si on avait filmé d'au-dessus. Il y avait presque une expérience entomologiste à vouloir décortiquer le temps dans le sens contraire. Et il y a des choses qui n'étaient pas compréhensibles parce qu'il y avait les spectateurs, ils avaient toujours une partie de leur cerveau qui essayait de remettre les séquences dans l'ordre. Et par ailleurs, il y a un meurtre au début de l'ancienne version et qu'on jugeait mal parce qu'il y avait un malentendu, parce que maintenant, il se retrouve à la fin et on voit très clairement qu'est-ce qui se passe, et c'est pas ce que les gens avaient compris à l'époque dans la version. Et cette version, elle est plus déprimante à la fin. Ouais.
Cette version est plus déprimante et des personnages rejaillissent. Je pense au personnage d'Albert Dupontel, qui était un peu le personnage sacrifié de la précédente version, qui cette fois-ci est beaucoup plus mis en valeur.
Et surtout,
c'est très
Monica,
troublant. Moi, Irréversible, je l'ai vu au moins 20 fois, en salle, en DVD et tout ça, et de voir, donc c'est un film que je connais très très bien, que je connais des dialogues par cœur et tout ça, et revoir maintenant dans cet ordre-là, et redécouvrir le film, et s'apercevoir qu'il y a des plans qui étaient déjà là, mais qu'on ne voyait pas à cause de la construction, c'est une expérience cinématographique très 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 déroutante que, et j'incite vraiment tout le monde à le voir quand ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là hier, le film va sortir en salle, hein, à la fin de l'automne dans ces deux versions, et ce sera très intéressant. Enfin, faut que tout le monde aille voir ça.
Et je trouve que le personnage de Monica est encore plus lumineux et passionnant dans cette version-là, alors que j'ai rien rajouté.
Mais la seule chose s'identifie qui a changé, c'est les transitions entre ces 13 blocs. Hein, ouais. Parce qu'évidemment, l'idée, c'est que c'est très lié, c'est ces espèces de volutes, de caméras et tout ça, avec la musique qu'on entend en ce moment, hein, la musique de
Thomas Van Gelder.
Donc ça, il a fallu que vous... Comment vous avez fait? Vous avez été dans le chutier reprendre des choses pour les
trituer? Non, on a juste inversé les blocs. J'ai pas changé le mixage, j'ai juste fait des fondus de son entre les différents blocs, mais aussi comme les raccords de séquences, qui étaient des plans séquences dans l'ancienne version, allaient presque toujours dans le même sens, la caméra panotait vers le ciel et remontait, en inversant les blocs presque partout, on a l'impression que c'était conçu pareil. Et du coup, c'est comme un domino que vous inversez. C'était très drôle de voir le résultat, surtout que ça n'a pas été long de le remonter. Hein.
La seule chose qui change vraiment, c'est, j'allais dire, la morale. On avait dit le temps détruit tout, alors maintenant c'est le temps révèle tout. Alors,
montage et morale.
Comment ça se fait que le temps révèle tout alors qu'avant il détruisait tout? On était avec Ovid et maintenant le temps révèle tout.
Mais j'ai toujours pensé que c'était une escroquerie que de marquer juste le temps détruit tout, qui est une phrase latine, tempus et dax rerum, parce qu'en réalité c'est le temps révèle, permet tout aussi. Il n'y a pas de yin sans yang et vice versa. Et heureusement qu'on est dans une machine temporelle qui nous permet d'avancer, d'évoluer, de naître et de mourir. Mais voilà, il ne faut pas voir le temps que comme une machine destructrice. C'est une machine constructrice. C'est comme aussi il y a des. Bon, le film. Il est assez testostérophobe parce que quand vous voyez des hommes avec des hommes, comme là, il y a beaucoup plus une violence très basique chez l'homme qui est différente chez la femme lorsqu'elle se manifeste. Mais la testostérone qui est montrée ici sous son plus mauvais jour peut aussi être source de vie. On doit tous notre existence à un père qui a mis une petite graine dans quelque part.
Voilà un extrait d'ailleurs de la musique irréversible. Frédéric Tang, votre réaction sur cette méditation sur le temps?
C'est en même temps bien, parce que ça veut dire que quand on connaît, il y a prescription, comme dirait l'autre, mais tout le tapage qu'a pu faire le film, et comme bien souvent les œuvres de Gaspard dès qu'elles arrivent, moi j'ai toujours cette vision un petit peu flatteuse pour Gaspard, qui est bien sûr un grand ami du festival et un artiste épatant, et c'est gênant de parler de cela dans les artistes, mais comme je l'avais dit récemment dans une interview, s'il y a deux cinéastes qui ont posé la question français important pour vous, ce sont lesquels depuis 20 ans? J'avais dit instantanément Gaspard Noé, on m'avait dit suivant, j'avais dit Bruno Dumont, puisqu'ils ont pour moi tous les deux, parmi, il y en a d'autres bien sûr, et tant mieux, mais qui sont vraiment sur un parcours déjà bien entamé maintenant, les deux cinéastes qui, entre guillemets, essaient autre chose véritablement et profondément. Et c'est vrai que Gaspard a souvent une espèce d'aura un peu sulfureuse autour de lui internationalement, passe pour quelquefois un provocateur. Moi j'en reviens toujours à cette formidable phrase de Lars von Trier qu'il avait écrit en 87 lors de la sortie de son film Épidémique, qui disait un film doit être comme un caillou dans ta chaussure, et je pense que c'est un petit peu le parcours que s'est donné entre autres Gaspard et indirectement Dumont aussi d'une certaine façon, qui gêne souvent certains spectateurs sur une autre approche cinématographique. Donc c'est un plaisir de voir que ce film redéveloppé dans cette forme-là, que Gaspard ne dit pas, mais qu'il avait déjà tenté d'ailleurs dès sa création, puisque originellement il avait travaillé sur cet axe chronologique avant de le changer complètement.
Non, c'était au moment de l'écriture, je savais que je voulais faire le film, un film raconté à l'envers, mais pour être sûr que ça marchait de manière logique, j'avais 13 pages ou 12 pages, je ne me souviens plus, avec le contenu de chaque séquence, et j'inversais l'ordre des pages pour voir si ça pouvait être lu dans un sens et dans l'autre. On a tourné le film chronologiquement tel la nouvelle version du film. On a le premier jour de tournage, c'est quand on voit Vincent et Monica dans leur appartement. Et la fin du film, c'est voilà, quand il y a la police qui vient emporter celui qui a commis un meurtre. Mais effectivement, tout avait l'air logique pendant qu'on tournait, mais je ne l'avais jamais réellement vu dans le sens chronologique.
Mais ce qui est intéressant, donc, du coup, par rapport à cette nouvelle version, je pense, c'est que comme ça arrive bien souvent, je pense qu'une réévaluation, si le terme n'est pas trop fort, va s'opérer avec cette nouvelle version, parce que des gens qui ont pu être troublés ou agressés d'une certaine façon, on l'a vu depuis la semaine dernière à Venise et hier soir en l'occurrence au festival, bah c'est très bien passé.
C'est-à-dire que maintenant on voit vraiment le film.
Mais oui.
C'est-à-dire que c'est ça qui est bien, c'est que à Cannes c'était terrible. À Cannes en 2002, le scandale mangeait tout. Et quand on était là, les vrais amateurs du film à vouloir en parler, on nous écoutait pas parce que déjà il fallait expliquer ceci, cela, le viol, le machin, le truc, Gaspard Noé, est-ce que c'est un méchant, est-ce que c'est des trucs qui nous intéressaient pas. Bien on sûr. Voulait parler du film. Bien et sûr. Maintenant le film il est là, 17 ans après, et on peut en parler, c'est merveilleux.
Mais le festival de Cannes c'est comme le mondial de foot, on y va pour crier. Moi je sais que des fois j'avais des amis qui avaient des films en compète et j'allais voir les autres films, aussi bien étaient-ils, je m'étais à siffler, à hurler dans la salle, parce que voilà, pour faire gagner mes amis et aussi pour le plaisir de hurler dans une salle.
C'est pas,
on n'est pas dans une église, on est dans un stade.
Après coup, c'est quand même bien de pouvoir voir les œuvres avec sérénité.
Alors, on évoquait la phrase de Lars von Trier avec vous, Frédéric Tan. Les films doivent être comme un caillou dans la chaussure. C'est un peu l'idée qu'avait en 1949 un club étrange de cinéastes, de cinéphiles assez mondains autour de Cocteau, en créant ce festival du film maudit de Biarritz où les péripéties ont été notables. On écoute là Robert Bresson d'abord qui nous précise ce qu'est le type de film qu'on peut découvrir dans ce festival.
Le club Objectif 49, qui a eu l'initiative de ce festival, a pensé qu'il était bon de récompenser, à côté des films dits commerciaux, d'autres films auxquels le cinéma doit beaucoup, je dirais même tout, et que Cocteau, par analogie avec ce qu'on appelle les poètes maudits, a appelé les films maudits.
Mais comment définissez-vous les films maudits ?
Ce sont ces films qui sont pleins de choses remarquables, bien que peu remarquées, et qui poussent continuellement le cinéma en avant, mais qui ne sont goûtés au début que par un petit nombre. Ces films qui donnent au cinéma sa force et sa nourriture.
Voilà, Frédéric Tan, réaction au propos de Robert Bresson, 1949.
On va l'accepter. Allez, à doublon le propos.
C'est pas au festival du film maudit que Kenneth Anger a montré son premier film, Fireworks, invité par Cocteau.
Tout à fait, j'allais venir, qui fut bouleversé, qui décida de remettre le Grand Prix, si je ne m'abuse, au film. Ouais. Je crois que c'est ça, hein. C'était le Grand Prix, Fireworks, à l'époque, d'un jeune cinéaste américain qu'on découvrira plus tard, puisqu'il fut ensuite accueilli par Henri Langlois en France, justement, sur, entre autres, les conseils de Cocteau et qui monta pour Langlois certains films, dont le film de Wells, si je ne m'abuse.
Non, dans Quai vers Mexico.
Oui, le Quai vers Mexico d'Eisenstein, dans une version qui sera d'ailleurs redécouverte beaucoup plus tard à la Cinémathèque, parce que très longtemps elle sera restée dans les cartons de façon mystérieuse. Et c'est vrai que c'est une belle référence pour nous, bien sûr, de parler de ce festival, le film maudit, par rapport à l'étrange festival. C'est flatteur.
Mais c'est tout à fait légitime et normal. Alors, parmi les films singuliers, il y avait Circoncision et Danse de possession. Alors, on dirait des titres qu'on peut voir aujourd'hui à l'étrange festival, après tout, pourquoi pas. Mais à l'époque, c'était des films en 16 mm couleur, filmés par un jeune ethnologue, Jean Rouche. Et projeter des films de Jean Rouche aujourd'hui, bah, ça semble effectivement aller de soi. On pourrait même les diffuser dans les lycées. À l'époque, Jean Rouche a rencontré quand même certaines difficultés.
D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à Biarritz, puisque avant mon arrivée là-bas, l'archevêque de Bayonne avait jeté l'anathème contre ces films et voulait interdire leur projection. Il a fallu que je présente ces films devant le sous-préfet de Biarritz et devant le commissaire de police.
Ce que j'allais dire, c'est que le commissaire de police aussi, ce qui dans le siècle est plus dangereux que la gueule.
Oui, il y avait une parfaite alliance entre l'Église et l'État. Et devant ces personnages, j'ai projeté mon film, qui a été jugé d'ailleurs fort anodin, car la circoncision ou la danse de possession est un spectacle qui n'a absolument rien de tragique. Ils ont même trouvé que ce film était un peu trop gentil, le film sur la circoncision en particulier.
Qui est-ce qui a trouvé ça, le commissaire de police ?
Non, le sous-préfet. Le commissaire de police n'a pas aimé certains mots que j'ai employés.
Voilà, Frédéric Tan, vous n'avez pas été obligé de montrer vos films.
Je suis pas ému, je dirais pas, c'est pas jusque là, mais j'écoutais évidemment le propos de Rouche, et une fois de plus, vous avez tapé dans le mille historique, il y a bien des parallèles, puisque cette anecdote qui circule encore sur le site du propre cinéaste concerné, près de 20 ans plus tard, nous est arrivée, c'est que nous avons eu droit à une descente de police, lors d'une édition du festival, sur la compétition court-métrage, pour un film canadien, précisément, qui traitait de problèmes de mauvaise fréquentation et autres pédophilies enfantines. C'est un beau pléonasme ce que je viens de faire.
Oui, oui, oui.
Et toujours est-il que le film fut montré une première fois, et puis lors de sa deuxième projection compétitive, à une heure de la projection, ce qui est quand même un peu vicieux, parce qu'il pouvait s'organiser autrement, un membre de l'équipe est venu me voir en casa. Je sortais d'une présentation d'un film, et vite venu me chercher en disant « Redescends vite, il y a la police au bureau ». Bon, bah, j'ai tout de suite compris de quoi il pouvait s'agir potentiellement, donc j'ai fait un crochet par la direction de l'époque de l'établissement, en disant « Tu vas rire, si je puis dire, ils sont là ». Il me dit « Bon, bah, vas-y tout de suite, j'ai une réunion, je vous rejoins après ». Et en fait, il y avait en effet trois inspecteurs qui se sont présentés très poliment en disant « Voilà, vous avez montré tel film dans votre programme, nous avons une commission rogatoire pour vérifier le contenu de ce film ». Chance heureuse, j'avais une copie vidéo du film, donc on les a isolés dans un salon pour leur montrer. Et amusément, je me suis moi positionné en arrière de la salle de projection pour les observer eux pendant la projection du film qui faisait 32 minutes. Au bout de 20 minutes, quand l'un des trois commençait à regarder sa montre, je me suis dit « Bon, ça va, c'est réglé ». Mais il semblait, pour la faire très courte, en résumé, que lorsqu'on a une déposition qui est faite, vous êtes censé venir clôturer le dossier vous-même, donc au commissariat. En l'occurrence, donc à présent, c'était la brigade des mineurs. Et vous pouvez voir les propos incriminés, mais pas évidemment le déposant. C'est la loi, c'est comme tel. Et tous les propos concernés étaient vraiment tellement provocateurs que bah, forcément, c'était quelqu'un qui cherchait un problème. On s'est posé moult fois la question, à savoir si c'était, comme le film était d'une très bonne qualité dans son propos, même si tel l'exemple de Massacre à tronçonneuse, il n'y a pas une goutte de sang à l'image, tout est dans le suggéré. C'était un petit peu la même chose avec ce court-métrage. Et est-ce que quelqu'un dans la salle a été tellement ému, comme il en était encore hier soir pour le film de Gaspard, une certaine séquence bien connue, que la personne s'est retrouvée elle-même impliquée à déposer plainte ou autre. Mais on a eu d'autres soucis aussi politiques, sans en dire plus, où des gens ont demandé dans des commissions de région et autres comment ces gens peuvent exister, montrer de tels films. Donc méfions-nous toujours et encore, le siècle a changé, mais il est toujours dangereux.
Pour continuer sur la thématique de la transgression et de ce qui est montré à l'écran, et qui il y avait Satan Sadist qui était projeté, donc un film de Grindhouse, de Blaxploitation, comme il a été présenté, 1969, d'Al Adamson, jeudi et samedi, donc aujourd'hui, et qui était un film justement qui met en scène de manière assez frappante, mais dans les codes de l'époque en fait,
Dire vraiment dans les codes de l'époque.
Oui, vraiment, mais du coup c'est vraiment très intéressant, hein, parce qu'il y a toute la partie vraiment de la transgression à bloc, avec qui est incarnée dans cette bande de motards, et qui prennent de la drogue, et qui violent en série, et qui tuent en série, et ce héros à la fin, ancien Marines, qui arrive et qui sauve tout. Et donc, est-ce que vous avez l'impression cette année que il y a d'autres films qui contiennent un bloc à part celui-ci?
Alors c'est très drôle parce qu'en l'occurrence, bon, il y a une projection qui avait lieu hier vendredi, donc qui reste une seconde projection du film, je crois. Mais alors c'est marrant cette transgression, comme vous dites très justement, parce que là le film d'Al Adamson est très cliché, est une série quasi considérée comme Z, comme le montre d'ailleurs indirectement le très beau documentaire qu'a fait Dave Gregory aussi cette année sur Al Adamson. Mais parallèlement cette année, il diffuse aussi un documentaire formidable d'une jeune cinéaste américaine que nous suivons depuis déjà plusieurs films documentaires, qui s'appelle Hail Satan. Qui parle justement de l'actuel groupe satanique américain, mais pas qu'américain, parce qu'ils ont même une section en France, et ils sont dans la salle d'ailleurs eux-mêmes pour venir promouvoir le film, qui est en train de totalement changer la donne, si je puis dire, parce que l'image des groupes sataniques n'est plus comme celle du film d'Adamson avec des Hells Angels, avec des croix gammées partout, mais ce sont des gens comme vous et moi, qui se lavent bien les dents, qui sentent très bon, et qui viennent tout souriants, s'exposer de ci, de là, dans différentes hémicycles, et comme le montre sur la partie américaine concernée du documentaire, ils sont là non pas quelque part pour amener une espèce de loge satanique ou une espèce de bible du genre, mais plutôt un petit peu pour décaler un peu tout ça et foutre un peu le bazar, parce qu'il se présenterait quelque part un petit peu comme un groupe à la Coluche qui détournerait les codes de l'Amérique actuelle et viennent aussi plus pour, en effet, un petit peu casser les codes actuels dits officiels, puisqu'ils sont absolument terrifiants, et on va pas parler de l'Amérique actuelle, mais enfin je crois qu'on le sait tous, ouais. En l'occurrence, c'est pas que l'Amérique malheureusement, et c'est vrai que quelque part l'aspect satanique aujourd'hui a pris une forme plutôt guillerette. J'en veux pour preuve d'ailleurs le dernier film Tarantino, puisqu'il a complètement réécrit l'histoire lui-même d'un acte bien connu malheureusement pour certains et un certain cinéaste précisément, et qu'il a totalement transformé. Donc ça prouve bien qu'on peut aussi jouer aujourd'hui du satanisme comme une espèce de fête grand guignolesque, si je puis dire. Donc c'est intéressant parce qu'en effet le rapport entre et le Adamson, j'y ai pas du tout pensé, parce qu'on a eu pas mal de films autour des mouvements satanistes qui reviennent apparemment à la mode ces temps-ci. Et ce qui est intéressant, c'était et le documentaire de Penny Lane sur ce groupe qui est vraiment actif, qui existe réellement autour de vous, et un vieux schéma qui remonte à plus de 50 ans maintenant.
Ils vont pas présenter au municipal, j'espère.
va voir si tu as le temps de le voir, la deuxième diffusion de El Satan, tu auras ta réponse, parce qu'ils sont devant le Congrès à un moment donné à manifester pour demander justement des amendements.
On peut aussi mentionner le documentaire de Laurent Courreau.
Alors, qui est encore
c'est
une
plus
autre
un
phase.
Un film expérimental, hein, qu'un documentaire.
Oui.
Un film expérimental qui met en scène la demeure du chaos à Lyon.
En même temps, ce qui s'explique un petit peu, puisque c'est comme Thierry Herrmann, le producteur attitré financier, j'entends, du projet, même s'il a coûté quasiment rien, ce qui est encore assez formidable dans le cas du film de Laurent Courreau. Et en effet, c'est encore un autre cas. Là, on est plus dans une espèce d'étude croisée de phénomènes actuels autant, qui vous concerne, je crois, très bien dans vos chroniques, cher ami, qui est vraiment plus un éclatement des genres aujourd'hui postmodernistes, si je puis dire, que sur un phénomène du type satanique, là, en l'occurrence.
Et moi, j'aimerais bien poser une question à Gaspard Noé, puisque j'ai relevé parmi les films que je préfère lors du festival celui de Joey, peut-être Begos, Bliss, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et il vous cite abondamment pour grand inspirateur de ce film, qui est un film sur pellicule. Peut-être que Philippe Rouillet l'a vu, je ne sais pas. Qui était tourné sur pellicule.
En 16 mm, et totalement retravaillé derrière, absolument.
Et avec, de fait, des couleurs très psychédéliques qui dit inspirées d'Enter the Void et de Climax, par ailleurs, pour la trame, puisque c'est une histoire de jeune fille surdopée qui devient. Enfin, ça vire du début à un truc dans le milieu goth punk, donc alors avec une musique qui, moi, me plaît beaucoup, et ça vire au splatterpunk. À la fin, elle explose les têtes de tout le monde, ça part dans tous les sens, c'est absolument génial. Tout à fait jouissif, tout à fait hystérique, une belle série Z, et donc où il rend hommage apparemment à vos films.
Il doit rendre surtout hommage aux boîtes de nuit dans lesquelles il a été et aux drogues qu'il a pris, hein. J'ai pas inventé ça.
Non, mais ce qui est bien, c'est que.
J'ai pas inventé le mouvement psychédélique non plus.
Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il revendique en effet, ce que j'avais même complètement zappé, parce qu'en effet, tout de suite, on y pense.
Moi, j'avais pensé aussi à Nowhere d'Araki.
Oui, il y a un petit peu de ça, mais c'est vrai qu'on va pas répéter encore que Gaspard est dans le mood du moment et inspire énormément. Nous, on a vu plein d'autres films, et Dieu sait qu'en court-métrage, c'est encore pire. Il y a beaucoup de jeunes cinéastes et réalisatrices du moment à travers le monde qui sont très inspirés par son cinéma. Et c'est vrai que dans le cas de Bliss, qui est le nouveau film de Begos, j'étais pas très friand de ses précédents longs métrages, et celui-ci m'a plutôt plu, parce que je savais très bien que la qualité de l'image et du son allait vraiment pétarader dans la grande salle, ce qui fut le cas puisque les murs vibraient vers 22h.
On peut le revoir le 14.
Absolument. Voilà. Et c'était bien, parce qu'en effet, une fois de plus, c'est un hommage rendu à Gaspard, donc ça fait toujours plaisir.
Une fille de l'ombre, une fille de l'ombre, c'est une fille de l'ombre entre ses seins et ses seins. C'est une fille de l'ombre, c'est une fille de l'ombre, c'est une fille de l'ombre entre ses cuisses et ses seins. C'est une fille de l'ombre entre ses cuisses et ses seins, entre ses seins et ses seins. C'est une fille de l'ombre. C'est une fille de l'ombre. C'est une fille de l'ombre. Fille de l'ombre. Une fille de l'ombre.
Voilà, les étranges musiques de Laurent Polleret, d'Achel et d'Ayat. Alors, l'étrange musique, Frédéric
Tant. Eh ben oui, qui malheureusement n'est pas présente pour
cette
gâteau.
Parce que ça, c'était aussi quelque chose. J'ai des souvenirs émus.
Depuis 2004, dans mon souvenir.
Oui, enfin, 2000, vraiment 2004 ça, on n'a pas commencé avant sur les performances et autres.
Officiellement.
Oui, parce que l'étrange musique, à proprement parler, de musique, donc de création par rapport à des œuvres existantes, voire des groupes réellement sur scène. En effet, ça va être 2002-2004. On avait commencé par des performances avec Renate, entre autres, précédemment, et c'est vrai que le problème, bah, c'est que tout ça a un certain coût, et que c'est pour ça que vous le faites exprès de m'en faire parler à l'antenne, mais on peut égratigner pour ce 25e anniversaire, comme on fait souvent à la fin de certains repas, c'est les films de Winterberg et autres qui jouent à ça beaucoup, c'est que ça commence bien, et puis on va agresser le tonton ancien collaborateur, ou l'amant de la cousine du coup du
frère. Fait preuve d'un désir.
Voilà, et donc c'est vrai que c'est énorme, étrange festival, je le dis clairement, énorme, parce qu'il y a une certaine fierté d'avoir fait cette opération sur 25 ans, et fait quasiment, malgré son apparence, de grandes manifestations internationales aujourd'hui avec des bouts de ficelle, et force est de reconnaître qu'en 25 ans, aucune institution française de l'industrie concernée, à savoir ministère de la Culture, CNC ou même région, n'ont versé un seul centime historiquement sur l'opération. Alors la question peut se poser, sachant que beaucoup d'opérations aujourd'hui sont aidées de ci, de là, et on a même aujourd'hui forcément des artistes même ou des producteurs qui nous sollicitent pour faire des symposiums et autres au sein de l'étrange festival, ce qui est quand même le monde à l'envers, voulant développer eux-mêmes leur projet au sein de l'étrange parce qu'ils s'y sentent bien par rapport à l'industrie qui est présente de producteurs ou autres. Mais pourtant, même ce type d'opération est dans la normalité, puisque si on doit rentrer maintenant à aider des œuvres à exister, voire des programmes de séries télé et autres, bah, je veux bien, avec grand plaisir, mais il faut qu'il y ait un donnant-donnant, que l'industrie elle-même concernée nous aide à le faire. Si personne ne vient nous aider et nous méprise littéralement au bout de 25 ans, la question se pose. Donc c'est vrai que dans le cas de l'étrange musique, c'est un petit peu pareil. C'est qu'on est arrivé devant un très beau calendrier de programmation à gérer, mais pour aller beaucoup plus loin sur les nuits, les programmations de concerts, d'expositions, comme on disait en début d'émission, que nous faisions entre autres avec Act Factory ou autre, bah non, si à un moment donné on continue nous-mêmes à être bénévoles, oui le mot est lâché, depuis 25 ans, toute l'équipe travaille de façon bénévole pour faire vivre cette opération dans les meilleures conditions possibles des spectateurs et des invités, des artistes, à savoir des sous-titrages, des fabrications de DCP, de copies et autres, se fait grâce en grande partie à la ville de Paris, avec son aide qui est quand même l'une des dernières institutions à nous aider, un petit peu la DRAC qui aide les difficultés politiques que l'on sait au niveau national, puisque la DRAC elle-même, c'est assez alambiqué pour les auditeurs, mais il s'avère que la DRAC a été imposée via le ministère depuis l'an dernier, à bénéficier d'un paiement opéré par le CNC pour les aides décidées par la DRAC. Donc c'est un peu décousu, mais c'est comme ça que ça se passe, en l'occurrence apparemment depuis l'an dernier. Et c'est vrai qu'à part, donc je le répète, la ville de Paris qui a toujours été là depuis les années 2000, et puis les spectateurs, surtout le vrai producteur étant le spectateur, de plus en plus nombreux, tant mieux, parce qu'on peut donc travailler de mieux en mieux, mais s'il n'est pas là, je ne sais pas comment serait le festival.
Venez nombreux à l'étrange festival. Philippe Rouillet, on évoquait la carte blanche à Jean-Pierre Dionnet, on évoquait 25 ans pour 25 films, chaque, pas comptiellement. Pendant qu'on parle là, il y a quelques heures, il y a le film qui est en projection. Voilà, tout à fait. Et on peut aussi citer évidemment le.
Eh ben, c'est demain soir. On fait la fête à Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, demain soir, avec la présentation d'une version alternative, parce que c'est ça aussi.
21h15.
C'est un esprit de la cinéphilie, ça a montré d'autres versions que celles qu'on connaît, et donc une autre version du Voleur d'arc-en-ciel de 1990 avec Peter O'Toole et Omar Sharif. Alors c'est un film très particulier dans sa carrière, puisque c'est vraiment un film, lui il appelle ça un film industriel, non pas du cinéma industriel comme a pu faire Bruno Dumont au début de sa vie, mais un film fait par l'industrie, donc sur un scénario qu'il n'a pas pu retoucher, avec des acteurs qu'il n'a pas choisis. Et du coup, en fait, il va présenter demain un director's cut qui est beaucoup plus court que la version sortie, enfin, partie d'un quart d'heure.
Voilà, un petit quart d'heure.
Voilà. Et avant, il y aura tout un cérémonial de psychomagie, d'auto-psychomagie autour de ce film.
Tout à fait. Bah, ce qui rejoint justement, alors c'est très bien lancé, quelle organisation dans cette émission, puisqu'en effet, il n'y aura pas malheureusement de spectacle et de concert cette année, mais le vrai clou spectacle de cette édition est bien sûr, à l'occasion de son 90e printemps, cette auto-psychomagie, très bien annoncée par Philippe à l'instant, d'Alejandro, puisque découvrant lui-même le remontage de ce film qui le minait depuis plusieurs décennies, il s'est aperçu à la fin de ce nouveau montage personnage qu'il se sentait soulagé subitement et a réalisé que c'est quelque chose qui l'a totalement hanté pendant toutes ces décennies depuis la finition de ce film, qu'il détestait en l'occurrence. Et comme il s'avère que c'est vrai, que sortira en cet automne son nouveau film documentaire Psychomagie avec d'autres patients, on lui a proposé d'en faire lui-même une autopsychomagie qui va être formidable demain soir, j'espère, pendant près d'une heure.
Merci Frédéric Tan. Donc c'est dimanche ce soir à 21h15 à Paris au Forum des Images à l'Étrange Festival. Très bon anniversaire. Alejandro, on termine nous cette émission avec bien sûr Christophe Beer.
Dans Antisémitisme et homophobie, cliché en scène et à l'écran, Chantal Meyer-Plantureux, professeur en art du spectacle, met au jour la formation de stéréotypes dans le théâtre et le cinéma français. Le juif et l'homosexuel sont les repoussoirs d'une France affaiblie, catholique et hétérosexuelle. De la belle époque aux années 30, les auteurs s'acharnent à désigner le juif usurier ou banquier, gargouille de rapacité, et l'inverti, forcément déséquilibré, en corrupteur et dépravé. En Chiloc, Firmin Gémier, nez bossu, perruque rousse et crépue, barbe en pointe et boucle d'oreille, sombre dans le morphopsychologisme à la mode. Un critique assiste à sa métamorphose devant son miroir, découvrant le jeu de ses paupières clignotantes et de ses regards fuyants tout à coup durcis par la cruauté. Il avançait sa lippe à la façon des Israélites cupides et défiants. Il était prêt. Au cinéma, Marcel L'Herbier, plus subtil, fait du banquier Gunderman de l'argent un être angoissant qui glace le sang, impassible et efféminé, aux antipodes de la description convenue de Zola, réunissant dans l'élégant Alfred Abel le péril juif et le vice homosexuel. En coulisses, le corporatisme trahit une haine antisémite. L'Herbier signe une lettre de délation. Jean Renoir tient des propos sur la racaille. C'est la chute de Bernard Nathan, la ruine de Jacques Haïck, qualifiée d'indésirable. Oublié par les exégètes de Charles Dullin, le livre souligne son activisme dans la Gerbe, hebdomadaire pétainiste, dans les colonnes duquel il réclame l'assainissement du métier. Le grand homme réorganise le théâtre et prend sa revanche, relayant sans peine la propagande nazie et obtenant son théâtre. Sartre y est joué pour la première fois, trop heureux d'être souvent invité à la campagne avec Simone, chez Charles Dullin, où il est assuré de bien manger. L'antisémitisme peut aussi être bon enfant avec André Hugon, responsable de la série comique des Lévy avec des Laurel et Hardy juifs, le gros Salomon et le maigre Moïse, commerçant obnubilé par l'argent, obséquieux avec les clients. Les poncifs sur l'homosexualité sont moins approfondis. Une étude plus fouillée des apparitions de Géo Forster, le mondain cancanant de la règle du jeu, immuable silhouette peroxydée des années 30, l'aurait révélé en robe espagnole draguant Jean Gabin dans un cabaret de travestis de la Bandera ou formant un couple disparate avec le bedonnant Lucien Barou dans Le Billet de Mille, son rôle le plus important. La page sur cet acteur oublié est néanmoins réjouissante, mais ce sont les différentes expressions de l'antisémitisme qui forment l'apport le plus riche de cet ouvrage publié par le CNRS.
Merci Christophe Beer, merci Frédéric Tan.
Mais merci à vous.
Merci Gaspard Noé d'avoir été ce soir les invités de Mauvais Gens. Vous êtes chez vous, bien évidemment. Et puis bravo encore et toujours à l'Étrange Festival. Et on ne le dira jamais assez, allez-y! Parce que comme a dit Frédéric Tan, c'est le spectateur qui est le producteur. Donc si vous n'y allez pas, eh ben ça va s'arrêter et ce sera ça, une véritable catastrophe. Donc allez à l'Étrange Festival. C'est jusqu'au 15... Attendez, pas de bêtises, jusqu'au 15 septembre.
Dimanche
et encore toute la semaine. Qui suit toute l'équipe de Mauvais Gens, Laurent Polleret, Eric Boisset, Claire Poissillon, Claire Martin-Dugard, Céline Duchesne, Philippe Rouillet, Sixtine Audebert et François Angeli et Christophe Beer. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Je serai en compagnie de Cécile Guilbert pour la phénoménale anthologie qu'elle publie aux éditions Lafond dans la collection Bouquins. Et cela s'appelle Écrit stupéfiant, 300 textes, 220 auteurs dont certains totalement inconnus sur les drogues et les drogues qui sont classées par substance, c'est vraiment le livre Mauvais Genre du mois à lire, évidemment, d'urgence. En attendant, on reste à l'écoute de France Culture. Et puis, bonne nuit à tous.